Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière le micro pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. Avec grand plaisir, c'est Bon pour la santé sur Canal M. Je vous parle aujourd'hui d'activité physique, on en parle souvent à travers l'émission, qui est assurément l'un des meilleurs investissements pour la santé de tous et peut-être plus particulièrement pour les petits. L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud l'a bien compris, ça, en étant près de sa communauté, près de sa clientèle également. Et ils organisent en mai le mois de l'activité physique pour les familles avec des enfants de 2 à 6 ans. C'est une occasion de faire essayer aux petits une panoplie d'activités. Ça passe du ballet au yoga, au vélo, et tout ça à très peu de frais. J'en parlerai en deuxième partie d'émission avec Nicolas Magère, lui coordonnateur des sports, et Cindy Gauthier, régisseur, tous deux à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Aussi, je vous parle d'un syndrome plutôt particulier, le syndrome Charles Bonnet. C'est une affection que l'on dit assez courante chez les personnes qui ont perdu une importante portion de leur vision. Et pourtant, on en parle très peu. C'est même, je dirais, plutôt méconnu. Et ce, autant des personnes qui sont en perte de vision que des spécialistes de la santé. Et ça peut causer beaucoup de confusion, beaucoup de préoccupations aussi auprès des personnes qui sont touchées par le syndrome parce que, imaginez-vous, le principal symptôme, ce sont des hallucinations visuelles qui peuvent être associés à tort, bien sûr, là, lorsque l'on ne saisit pas trop ce qui arrive avec nous, à la démence, à des problèmes de santé mentale. J'en parle aujourd'hui avec le docteur Jean-Pierre Chartrand. Lui, il est ophtalmologiste et porte-parole d'Inca Québec. Docteur Chartrand, bonjour.
Bonjour, Marianne. C'est un plaisir de vous reparler.
Ben, moi aussi, pareillement, plaisir partagé, docteur Chartrand. On parle aujourd'hui d'un syndrome dont on ne parle pas souvent, dont on ne parle pas beaucoup, et ce même entre spécialistes de la santé. Et ce qui me semble assez particulier, c'est que c'est tout de même plutôt fréquent, ce syndrome de Charles Bonnet.
Le syndrome de Charles Bonnet, c'est le docteur Bonnet qui, en 1752, donc quand même 250 années, que c'est connu. Et ce sont des gens qui sont en perte d'acuité visuelle, de vision, modérée à fort, jusqu'à complètement légalement aveugle. D'ailleurs, plus les gens sont en perte de vision, plus ils vont avoir, c'est ce que vous expliquez au début de l'émission, des hallucinations visuelles. Ces hallucinations visuelles-là peuvent être des formes, des couleurs, ça peut être des animaux, une girafe, un éléphant, là, je vais aussi direct que ça, ou même des personnes. Et dans les très, très peu nombre d'études que nous avons, on pourrait dire que 20% de ces gens-là peuvent éprouver, mais pas souffrir. C'est pas une question de maladie.
Ouais.
Ce sont des gens qui vont avoir ces hallucinations-là. Vous avez dit un point important, c'est que les gens n'en parlent pas. C'est vrai parce que ces 20%-là de gens que l'on reconnaît à date dans les très peu d'études, je répète, qui ont été faites, ce sont des gens qui n'ont aucun problème ni psychologique ni psychiatrique. Alors, les gens, évidemment, les gens que je vais voir, moi, en perte d'acuité visuelle importante, c'est certain qu'ils ne vont pas me le mentionner en premier. Ce qui est vraiment évident, ça va être plutôt les gens qui sont avec eux, les gens de la famille, et qui vont mentionner, « Ah, ma mère ou mon père ou ma tante, whatever, vont noter, « Ah, elle voit des choses, est-ce que c'est un peu normal? » Et ça peut inquiéter, justement, les gens de l'entourage qui vont se demander à ce moment-là, est-ce que non seulement elle perd la vue, mais elle perd la tête ou des choses comme ça, là.
Mais docteur Chartrand, vos patients, ceux qui sont en perte de vision, ne vous parlent pas de ça, mais vous, est-ce que vous leur en parlez là, en leur disant « ça se peut que ça vous arrive »?
Pas assez, pas suffisamment, vous avez totalement raison. Et c'est ce que, justement, l'INCA, vous en parliez, a fait une étude pour essayer de sensibiliser les gens qui aident, qui sont des aidants pour les gens en perte de vision, les membres de la famille, et aussi, certainement, les gens, les professionnels de la vision, si vous voulez, pour justement leur permettre d'en parler. Bon. Une façon que l'INCA s'est pris pour, dans une étude qu'ils ont publiée là, récemment de 2500 personnes, c'est qu'on demandait à cette personne-là, en perte d'acuité visuelle, on lui disait de cette façon-là. Dans mes patients, j'ai plusieurs gens me parlent qu'ils voient des formes, des hallucinations, tout ça. Et c'est tout à fait normal, ça arrive. Est-ce que vous, monsieur ou madame, ça arrive aussi. Alors, c'est une porte d'entrée pour essayer de les rendre confortables, si vous voulez. C'est ça qui est le but. Hein?
Oui, d'ouvrir la discussion.
Oui. Voilà. Oui. Et que l'entourage soit très à l'aise avec cette situation-là.
Quelles sont les causes? Est-ce que ça s'explique, ces hallucinations visuelles?
Écoutez, la cause, c'est tout simplement la perte de vision, là. That's it. Faut pas penser que qu'il y a un cancer, une tumeur ou un problème avec un vaisseau sanguin quelconque. Cependant, il est sûr que tout ophtalmologue et ophtalmologiste qui va voir une situation comme ça, qui peut être différente ou spéciale, c'est pas une mauvaise idée de peut-être faire quelquefois une petite investigation de base selon les besoins, c'est sûr. Mais, je le répète, ces hallucinations-là visuelles peuvent se voir chez des gens qui souffrent d'un glaucome très avancé, de cataracte très avancé, de dégénérescence maculaire. Donc, il n'y a pas de maladie spécifique auxquelles on peut annoter le phénomène d'hallucination visuelle. C'est définitivement, tout simplement, une perte d'acuité visuelle.
Ouais.
Chose aussi, autre chose, si vous me permettez, que j'aimerais ajouter, c'est que ce sont des gens qui souvent vivent avec quelqu'un. On le voit moins chez des personnes qui vivent seules.
Ah oui? Est-ce que ça s'explique, ça?
Bon, est-ce que c'est la stimulation d'avoir un entourage? Est-ce que c'est la stimulation d'avoir un régime de vie qui est différent à cause des personnes alentours? C'est en ce moment, il n'y a pas vraiment de raison. C'est un peu comme, Marianne, on va noter plus ça chez la femme que chez l'homme.
Ah oui.
Mais la raison principale, d'après ce qu'on nous discute dans les études, c'est que la dame va avoir plus de facilité à exprimer cette situation-là. Alors que l'homme, comme d'habitude, souvent dans le domaine médical, va nier et ne voudra pas en parler du tout, va avoir de la difficulté à exprimer, toujours de la peur de passer pour quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques ou psychologiques. Là.
Oui. Vous avez dit quelque chose d'intéressant et d'important tout à l'heure, Dr. Chartrand, c'est qu'on ne souffre pas du syndrome de Charles-Bonnet, c'est-à-dire que c'est pas souffrant, ça fait pas mal. Il peut, j'imagine, quand même y avoir certaines conséquences sur notre mode de vie ou sur notre quotidien.
La seule souffrance, c'est la souffrance d'avoir de penser ou d'avoir l'impression qu'en plus de perdre, être en situation de perte de vision, c'est qu'en plus, il y a un problème au niveau du cerveau quelconque qui existe. Je pense que c'est plutôt la détresse. La détresse qui existe à ce moment-là chez les gens. Et je crois que l'INCA, ce qu'elle veut faire, de bien d'essayer le plus possible de sensibiliser tous les aidants du domaine de la vision, c'est ça, là. C'est de permettre à ces gens-là au moins de se sentir confortable et peut-être d'en rire même, si on veut. Là.
Se sentir compris.
Voilà.
Est-ce que c'est traitable? Si j'ai bien compris, ça disparaît à un moment donné.
Encore là, ça dépend.
Okay.
Ça dépend des gens. Chez certains gens, ils vont dire « Ah, ça fait 2 années que j'en ai pas vu. Ah oui, je me souviens à Noël, il y a quelques années, mon Dieu, pendant toutes les vacances, je voyais toutes sortes de bon, il y en a qui m'ont déjà dit « J'étais en safari. » Bon, ils voyaient des animaux. Est-ce qu'ils ont lu des livres sur la jungle avant? Ou bon, je plaisante, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui. Donc, on ne sait pas. Ça peut demeurer à long terme, ça peut se résorber. Il n'y a pas de traitement pour le syndrome.
Non, il n'y a pas de traitement nécessaire non plus. Mm-hmm. C'est tout simplement un état de fait. Mais je le répète, ce qui est le plus important, c'est de rendre réassurer ces gens-là et de les faire confortables, même d'en discuter ou d'en parler s'il le faut.
Ouais. Est-ce qu'il y a des stratégies d'adaptation? C'est-à-dire, si un patient vous dit, docteur Chartrand, j'ai des hallucinations visuelles au quotidien, ça se passe plus le matin, ça se passe plus le soir. Est-ce qu'on peut vivre avec de façon adéquate?
Oui, ouais. Effectivement. Même que pour certaines gens, c'est agréable. J'ai pas vu ça, moi, dans ma pratique, mais j'avais une consoeur qui disait, moi, sa patiente, elle leur donnait des noms à ses hallucinations.
Ben oui.
Alors, c'était même, faisait partie un peu même de la famille, où des gens même vont rechercher les hallucinations parce qu'ils ont l'impression que peut-être la vue revient. Il y a toutes sortes d'interprétations.
Ouais.
Hein. Ouais. Mais une chose est certaine, ce n'est pas question de ce n'est pas une maladie, c'est pas un traitement à faire, c'est un état de fait qui accompagne et qui survient chez les gens qui ont une perte de vision et, je le répète, quelques maladies que ce soit. Donc, c'est bien de rassurer les gens de la famille ou les enfants qui s'occupent de ces personnes-là.
Oui, et pour en rire, pour arriver à donner des noms à nos hallucinations, il faut arriver à comprendre, à nommer, à se sentir compris également. Et je pense que l'INCA en ce moment, avec cette étude, c'est ce qu'il tente de faire.
Exactement. C'est de sensibiliser le mieux possible aux besoins des gens qui sont en perte d'acuité visuelle. C'est bien d'avoir des objets de télévision, etc., pour améliorer ou grossir ou faire que la vision devient quand même plus confortable, plus visible. Mais il y a aussi le confort psychologique de ces gens-là qui est énormément important, comme déjà ça a été discuté.
Mm-hmm. La recherche était 2500 répondants qui ont été sondés et sur ces 2500 répondants, 18,8% répondu qu'ils vivaient des hallucinations visuelles.
Oui.
Bon, ça, c'est le premier constat.
Et c'est ceux qui ont répondu, ça.
Oui, c'est ça, exactement. C'est ceux qui ont avoué avoir. On peut le dire ainsi. Est-ce que vous savez, docteur Chartrand, quelles seront les prochaines étapes de cette recherche?
Il n'y a pas vraiment beaucoup de recherches qui existent en ce moment. Je crois que c'est sûr qu'il faut développer d'autres façons, je pense, de rendre les gens encore plus confortables, d'en parler justement. Possiblement aussi quelques tests d'imagerie au niveau du cerveau pourraient, par exemple, se faire plus tard pour peut-être arriver à voir, quand on est en perte d'acuité visuelle, il y a cette partie-là du cerveau qui se développe un peu. Mm-hmm. Comme on fait dans d'autres maladies présentement, parce qu'on sait très bien que l'imagerie se développe de plus en plus et le cortex visuel au niveau du cerveau qui est relié directement avec les yeux, il y a tout un pattern là. Il y a peut-être des choses qui se passent quand le message circule.
Oui. Et bien sûr, tout ça dans le but de mieux outiller le personnel soignant, les professionnels de la santé pour qu'ils puissent mieux aiguiller leurs propres patients.
Tout à fait.
Oui. On glissera le lien d'INCA Québec sur le nôtre, là, en lien avec le syndrome de Charles Bonnet. Docteur Jean-Pierre Chartrand, vous êtes ophtalmologiste et porte-parole d'INCA Québec. Toujours un plaisir de vous parler.
Marianne, bonne fin de semaine.
À vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vusevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour à vous deux, Cindy Gauthier et Nicolas Magère, tous deux de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, l'un comme coordonnateur des sports et l'autre comme régisseur. Merci
oui,
d'être
bonjour.
Là.
Ben, merci bonjour. À vous encore une fois pour l'invitation.
Vous n'êtes pas loin, hein?
Non, on est juste à côté. On est Visitation et Ontario.
Donc, c'est un organisme situé à Montréal. Ça fait quoi, Cindy? Un ou une régisseur?
Moi, en particulier, je m'occupe de la programmation des activités du centre, puis des cours privés de musique et de tout ce qui est psychomotricité et éveil musical qui se donne dans le centre, mais aussi dans les CPE et dans les écoles du quartier.
Et Nicolas, ben, coordonnateur des sports, ça le dit bien.
Exactement.
Vous êtes les deux têtes derrière ce mois de mai, mois de l'activité
oui.
physique.
C'est ça. On est les deux personnes qui étaient en charge... de l'événement. Bon, on était aussi aidés par un autre régisseur et Anne-Marie aussi, qui oui. S'occupe d'Éco-Quartier, qui nous a aidés, elle, pour la journée du vélo sympathique.
Oui. On reviendra à ces noms
ouais,
un petit peu rigolos donnés. Ouais. Mais pourquoi? Parce que mai, c'est pas le mois... Est-ce que c'est le mois de l'activité physique partout au Québec ou c'est vraiment l'association qui s'est dit « Nous, on veut mettre l'accent pendant le mois de mai sur le sport et l'activité physique. »
La ville de Montréal a le mois de l'activité physique donc pour le mois de mai, mais nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait à part de tout ça. On s'est réunis, on s'est dit que c'était important de proposer des activités différentes et des activités aussi accessibles à nos adhérents, mais aussi à toutes les personnes qui voulaient venir y participer.
Oui, parce qu'il faut le mentionner, du côté de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, votre clientèle, elle a certaines particularités peut-être. Qui vient chez vous, Cindy, peut-être?
Il y a beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants de 0 à 6 ans. Il y a des ados, vu qu'on a des programmes pour les adolescents. Et il y a aussi des personnes à mobilité réduite, vu qu'on a aussi un programme pour les personnes handicapées. Donc, je dirais que tout le monde peut venir dans notre centre, finalement.
Voilà. Quels seront les objectifs de ce mois-là, chez vous?
Ben déjà, nous, c'est de donner la chance à tout le monde de venir participer à des activités physiques, mais aussi de pouvoir leur faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux sports,
ouais.
Des choses différentes qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, gratuites,
ouais.
Bien vraiment à
ça,
coût,
c'est important de le dire,
ou à coût réduit.
Ouais. Ouais. Ça s'adresse à des petits-enfants, si je comprends bien. On parle de entre 2 et 6 ans.
Ben pour le mois de l'activité physique, il y a pour les enfants et pour les adultes, parce qu'en fait, à chaque fin de semaine, il y a des activités différentes. Donc, selon le week-end, il y a des activités pour les adultes, puis il y en a d'autres, vous savez, des week-ends pour plus les familles, les enfants et les personnes à mobilité réduite.
Oui. Et assez varié comme activité, ça passe du ballet au yoga, ça, on connaît ça. Là, le vélo smoothie, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, en fait, le vélo smoothie, c'est parce qu'il faut dire que le 14 mai, donc ça va être notre journée vélo sympathique, qui ça, en fait, le mois de mai est le mois de l'activité physique, mais c'est aussi le mois du vélo. Donc, partout dans le Québec, c'est le mois du vélo et nous, le centre, on essaye de devenir un centre vélo sympathique. Donc, promouvoir en fait le vélo. Et grâce à Cyclo Nord-Sud, on va faire une collecte de vélos usagés. Et pendant cette collecte, il y a plusieurs ateliers qui vont se dérouler sur le thème du vélo, dont notre vélo à smoothie. Donc, en fait, ça va être un vélo et il faut pédaler pour préparer son smoothie.
Ah oui, c'est oui. formidable. Et les enfants vont trouver ça très, très amusant en plus. Donc, on fait rouler le vélo et comme ça, le smoothie peut se préparer.
Exactement.
Oui, exactement.
Oh, ça devrait être assez amusant. Donc, vélo, les gens peuvent aller porter leur vieux vélo. Comment ça se passe?
Oui,
ça,
exactement.
Activité?
Ils viennent porter leur vieux vélo. Il faut qu'ils donnent un 15 $ parce que c'est pour le transporter dans les pays d'Afrique. Parce que Cyclo Nord-Sud, en fait, ils récupèrent des vélos usagés qu'ils vont remettre à jour pour les envoyer dans 18 pays d'Afrique ou en Amérique latine. Et les gens qui ont apporté leur vélo vont avoir un reçu d'impôt donc, où ils peuvent déclarer le 15 $ plus la valeur que Cyclo Nord-Sud a donnée pour le vélo qu'ils ont apporté.
OK. Bon, maintenant, je disais tout à l'heure yoga, mais il y aura yoga histoire. C'est bien ça?
Oui.
En quoi ça consiste?
Ça, c'est Cindy aussi qui s'occupe de ce créneau-là.
Le yoga histoire, en fait, ça va être une petite histoire qui va être contée aux enfants et il y aura des positions de yoga à faire au fur et à mesure de l'histoire.
Est-ce que les gens qui sont hors de l'île de Montréal peuvent y aller?
Oui. Oui. Tout le monde peut venir, c'est pas réservé à notre quartier.
Ah, parce que ça nous donne vraiment envie beaucoup, surtout pour les petits, parce qu'on imagine bien un enfant de 3 ou 4 ans qui a du plaisir à faire ça. C'est ça qui est derrière aussi, j'imagine, l'importance de bouger, mais d'avoir du plaisir à le faire. Également, une activité de psychomotricité, c'est quoi ça? C'est encore Cindy ou Nicolas?
C'est Cindy, je pense qu'elle fait tout.
Finalement, hein?
La psychomotricité, en fait, c'est pour développer les capacités motrices chez l'enfant. Et le centre en donne dans les écoles et dans les CPE. Ça, c'est ce qu'on offre dans les écoles et dans les CPE. Et c'est pour ça qu'on fait notre marathon de fitness qui, lui, est payant, car l'argent qu'on va récolter va nous permettre de financer ces activités qu'on donne dans les CPE et les écoles pour essayer d'en développer de plus en plus. Car les enfants de 0 à 4 ans, c'est à ce moment-là, et grâce à ces activités-là, qu'ils vont réussir à se développer. Et ça nous permet aussi de voir si certains enfants ont déjà des problèmes moteurs et leur permettent de bouger un maximum.
Tout à fait. Nicolas, c'est quoi, vous, votre volet? Allez-y.
Non, ben, on a plusieurs choses. On a le tournoi de volleyball. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est la journée du dimanche 22, où vous avez aussi la psychomotricité, donc tous ces cours pour enfants. On a aussi cette journée-là, la journée du sport adapté.
Oui.
Donc, on a le volleyball assis, on a l'escrime en fauteuil. On va avoir de la luge sur roulette et du basket fauteuil. Okay. On a la chance cette journée-là d'avoir des athlètes paralympiques qui vont pouvoir faire découvrir ce sport et donner quelques conseils pour pratiquer. C'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer tous les jours des athlètes paralympiques. Et donc cette journée-là, ça sera vraiment un bon moment, je pense, pour ça, parce que nous, au centre, on a quand même une politique d'accessibilité pour tous.
Oui, ça, c'est important pour nous aussi, vous savez.
C'est très important. Et donc, voilà, on va pouvoir découvrir ces sports, en savoir un peu plus comment ça se passe, comment ça marche et pourquoi, pour qui. Puis, c'est bien aussi que les personnes valides puissent aussi s'épanouir dans ces sports-là.
Oui, mais en fait, ce qui peut également être intéressant, je ne sais pas si c'est également un volet de cette journée du 22 mai, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement de limitations fonctionnelles qui peuvent tester ces sports que l'on fait différemment et comprendre peut-être un petit peu plus, se mettre dans la peau d'une personne qui a des limitations fonctionnelles. Et là, ça devient assez intéressant. Il y a quelque chose de très inclusif qui peut se créer. Est-ce que vous avez des noms du côté des athlètes paralympiques? Est-ce qu'on a droit à quelques primaires?
Ben, on a José Rebello, qui est donc athlète paralympique pour Team Canada Volleyball, assis.
Ouais.
On va avoir Camille Chaï, qui est athlète paralympique en escrime adapté. On a des amis à eux qui vont venir aussi, que ce soit pour la luge en roulette ou encore l'escrime, qui vont venir, où je n'ai pas vraiment les noms, mais tous des gens des comités olympiques.
Et un beau clin d'œil à ces enfants qui ont envie d'avoir une vie sportive et physique et qui pourront avoir de bons modèles lors de la journée du 22 mai. Je reviens un petit peu à ce désir de se positionner comme pour le vélo, pour les cyclistes, et également une activité de matériaux récupérés sur les vélos. Donc ça, c'est plus le volet artistique un petit peu.
Oui. En fait, c'est avec les pneus de vélo, on va avoir des créations de bracelets ou de bijoux qui vont être faits. Comme quoi, avec un vélo, on peut faire plein d'autres choses que juste pédaler avec. Puis même quand il est vieux, on peut faire de la récup.
Oui, tout à fait. Et être bien créatif en ce sens. Donc, des activités pour tous, enfants, des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, personnes âgées aussi?
Bien sûr, tout le monde est invité.
Oui. Oui, voilà.
Il n'y a pas une activité spéciale et réservée aux personnes âgées, mais tout le monde peut venir.
Comment on fait pour s'y inscrire?
Alors, ça dépend les différentes activités. Pour le marathon de fitness et pour le tournoi de volleyball, c'est des inscriptions qui se font à l'accueil du centre.
Ouais.
Il y a un formulaire à remplir, on rend toutes les informations, puis c'est comme ça que ça se fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour le marathon.
Pour le marathon de fitness, ils peuvent s'inscrire aussi en ligne sur notre site internet sur www.ascs.qc.ca.
Le marathon de fitness, il est quand?
Le 7 mai, le samedi 7 mai.
Le 7 mai. Donc vraiment pendant tout le mois de mai, un accent particulier sur le sport et les activités physiques.
Exactement.
Ça s'inscrit dans le mois de l'activité physique qui est à Montréal. On pourra suivre également toutes les activités proposées là, dans le cadre de ce mois-là. Et c'est très... c'est bien que vous preniez ce relais-là pour proposer à des gens qui n'ont pas nécessairement toujours... peut-être les moyens financiers de pouvoir essayer une panoplie de sports et d'activités physiques. Cindy Gauthier, Nicolas Magère, tous deux de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, merci beaucoup.
Merci à vous.
Puis on glissera votre site web sur le nôtre, bien sûr.
Ben, merci beaucoup.
Super.
Je vous quand même demande de rester assis parce que je vous parle de demain, une rencontre avec les producteurs et agriculteurs québécois avec Julie Aubé. C'est mon invitée. Julie Aubé qui est nutritionniste du côté d'Extenso et qui vient souvent nous voir. Ça fait très longtemps qu'elle caresse un livre, de publier un livre sur l'agrotourisme et ben, c'est demain que ça se fait. En fait, son livre a été lancé hier et elle est avec nous demain pour nous parler de ce livre-là qui s'appelle « Prenez le champ ». Donc, un titre plutôt approprié. Elle nous parle de producteurs, d'agriculteurs également, qui sont très importants et qui ont un grand, grand apport un petit peu partout au Québec. Et également, un gym en prévention et en réadaptation cardiaque avec Mathieu Sirois. Il est kinésiologue et directeur de Cardio Extra. Donc, deux très beaux volets pour une meilleure santé cardiovasculaire. C'était Marianne Paquette au micro, Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. On vous invite bien sûr à entrer en communication avec nous. 1-800-361-0635, c'est le poste 220. Ça, bien sûr, c'est le numéro de téléphone ou encore mpaquette@vuesetvoix.com si vous avez envie de nous faire des suggestions, peut-être des conseils, peut-être que vous avez envie, vous avez derrière la tête une entrevue, un invité, vous vous dites cette personne-là, elle passerait bien dans le cadre de C'est bon pour la santé, n'hésitez pas. Rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.